RCF, il est 14h.
On replonge encore cette semaine dans Naoum avec vous, Sœur Conrade, bonjour.
Bonjour.
On avait commencé avec vous la semaine dernière. On se trouve ici au cœur même de l'abbaye de Jouarre. C'est magnifique, la pierre dorée comme celle-ci. Vous êtes ici d'ailleurs depuis 43 ans. Vous avez toujours été à Jouarre ?
Ah oui.
Toujours. Mais vous voyagez aussi beaucoup. Vous êtes secrétaire de l'Alliance Intermonastère. C'est pas seulement en France, c'est à travers le monde entier. Vous parcourez les abbayes bénédictines. Et nous, on va parcourir le texte de Naoum, le prophète dont on disait qu'il est consolateur, c'est le sens de son nom. Un prophète qui vient redire la fidélité à Dieu, envers et contre tout, au milieu des bourrasques, comme auprès de la forteresse. Et on arrive au chapitre 2. Alors le chapitre 2, ça va se resserrer un peu sur l'Assyrie. L'Assyrie, c'est ce puissant empire dont on parlait la semaine dernière, avec cette description de bataille. Ça vous a plu aussi, cette description fine, en détail, de qui vient combattre pour anéantir les autres royaumes.
C'est-à-dire, l'Assyrie, aujourd'hui, on écrit en deux mots, là, plus loin, Syrie, oui. L'apostrophe,
Assyrie.
Le royaume d'Assour.
Empire. C'est en un seul mot, effectivement. C'est un empire immense qui grignote du territoire au fur et à mesure. Et alors, il revient ici, comme nous l'est dit au verset 2, rassemble toutes ses forces. Alors, le Seigneur revient. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Et notamment, peut-être ce premier verset, « Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix ». C'est les pas du messager qui annonce la paix. Qui est le messager? De quelle paix s'agit-il?
Alors c'est un très très beau verset. D'ailleurs, il a été mis en musique par Buxtehude au XVIIe siècle.
Je vous propose qu'on écoute un extrait justement, c'est une bonne idée. Alors redites-nous comment ça s'appelle.
Buxtehude, c'est un motet, c'est en latin, hein. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. Vous entendrez la musique qui sautille, pleine de joie.
Là, ce qu'on vient d'entendre, ça nous redit bien ce verset 1. Voici sur les montagnes les pas du messager qui annonce la paix. De quoi s'agit-il?
Alors, c'est compliqué de se réjouir, mais enfin, en même temps, quand on est écrasé sous la botte de l'oppresseur, on se réjouit quand même de la libération. Il s'agit de la chute de Ninive, qui cette fois est réelle. Le Seigneur l'avait promis, effectivement, Babylone a écrasé l'empire d'Assour. Donc on a une description très haute en couleur, très bruyante, et les Ninivites, c'est fini, c'est terminé. On a d'abord la chute de la ville, des remparts, et puis ensuite on va avoir la chute de l'Empire.
On va écouter justement un extrait de ce chapitre 2 du livre de Naoum, versets 7 à 14.
Les portes qui donnent sur le fleuve s'ouvrent, le palais vacille et s'effondre. La princesse est déportée. Ses servantes sont emmenées. Elles gémissent comme des colombes. Elles se frappent la poitrine. Ninive est comme un réservoir dont les eaux s'échappent. Arrêtez, arrêtez! Mais nul ne se retourne. Pillez l'argent, pillez l'or. C'est un trésor inépuisable, une richesse inimaginable d'objets précieux. Pillage, saccage, ravage. Le cœur fond, les genoux flageolent, tremblement des reins, tous les visages changent de couleur. Où est le repère des lions, l'antre des lionceaux? La lionne restait là quand partait le lion, et nul n'inquiétait les lionceaux. Pour ses petits, le lion déchirait, pour ses lionnes, il étranglait. Il remplissait de proie ses tanières et de viande déchirée ses antres. Maintenant, je m'adresse à toi, Ninive, oracle du Seigneur de l'univers. Je ferai flamber tes chars et les réduirai en fumée. Tes lionceaux, l'épée les dévorera. Je supprimerai de la terre tes rapines et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers.
Donc là, on assiste vraiment à la destruction totale de Ninive. Pillage, saccage, ravage, je pense que ça résume assez bien ce qui se passe. Il est question du lion et de ce repère du lion. Comment vous le comprenez, vous ?
Alors en fait, c'est une métaphore. Le lion, c'est le roi des animaux. Mais le roi des animaux ici, le lion, c'est évidemment le grand prédateur de la terre, c'est-à-dire le roi d'Assour. Il est dans son repère et il est dans son antre, on voit bien. Et puis il nourrit ses lionceaux, il dépèce, autrement dit, c'est toute la famille assyrienne. Tout a été ramené à Ninive, tout a été volé. Autrefois, quand on prenait un sanctuaire, on prenait même les statues, on prenait tout l'or, l'argent, et on l'emmenait dans le pays du vainqueur.
C'est pour ça qu'on insiste autant sur le pillage.
Oui, en fait, c'est un juste retour des choses, on va dire. C'est-à-dire que tous les trésors de Jérusalem avaient été pillés, tous les trésors de Samarie, et finalement, ça revient dans l'autre sens. Après tout, on n'a pas fait beaucoup mieux. Nous, nous sommes en train de rendre des trésors de certains musées, que ce soit à Londres ou à Paris ou ailleurs.
Piller l'or, c'est un trésor inépuisable, une richesse inimaginable d'objets précieux. Ça veut dire que la Ninive, qui ne va plus ressembler à rien, elle était superbe, elle était magnifique. Qu'est-ce qu'on cherche à nous dire ? Est-ce que c'était qu'au fond, ce qui la rendait belle ne tenait pas à grand chose?
Moi, je pense qu'il y a deux choses. D'abord, immédiatement, on va dire, après tout ce que tu nous as fait subir, maintenant tu le subis. Que ce soit la déportation, le pillage, le saccage, mais peut-être aussi les portes qui donnent sur le fleuve s'ouvrent. On a l'impression que le Seigneur, qui est le créateur de l'univers, est en train d'ouvrir les écluses du ciel. On retourne au chaos originel. En fait, lorsqu'il y a eu trop de violence, c'est comme au moment du déluge, par exemple. L'ordonnancement de la terre, la paix, la culture, l'agriculture, enfin tout ce qui est organisé, tout d'un coup devient désorganisé. Donc il y a c'est ça aussi qui nous met très mal à l'aise. C'est pas seulement que les remparts tombent, c'est que l'ordre de la création s'écroule. Il y a vraiment un effondrement total. Et le cœur fond, les genoux flageolent. On voit bien dans la Bible, quand on dit on a le cœur qui fond, le psalmiste dit ça. Ça veut dire que devant la peur, devant l'horreur, rien ne tient. Rien ne tient. L'homme qui était supposé tenir debout s'écroule. Les reins, qui sont le siège de la puissance dans la Bible, tremblent. Et puis les visages changent de couleur, alors on ne sait pas s'ils sont livides ou cramoisis. En tout cas, on a ça dans l'Apocalypse aussi, hein, quand quelqu'un change de couleur. Devant le lion, mais on nous dit aussi que le lion, donc maintenant, il est terrassé, ça y est. Et puis il emplissait de proie ses tanières, et donc tous ces objets précieux, ils sont volés, revolés, ils repartent dans l'autre sens. Finalement, entre guillemets, on a gagné. Mais ça ne nous suffit pas. Dans la Bible, il ne suffit pas de se dire, ça y est, on les a pilonnés. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est maintenant que la puissance de Ninive est écrabouillée, qu'est-ce qu'on va en faire de cette violence ? Est-ce qu'on va rendre le mal pour le mal ? Donc, tout est brûlé, mais l'enjeu aujourd'hui, ça va être de reconstruire un monde où on se parle et où on se regarde face à face.
Et c'est ce qu'on va découvrir d'ailleurs dans le chapitre 3, vers lequel on se dirige. Alors le chapitre 3, c'est un peu sur les conséquences sur l'Empire dans son ensemble, avec ce premier verset où Nahum redit combien une ville qui est bâtie sur le sang des innocents, sur le mensonge, c'est une ville qui est vouée à sa perte.
Voilà. Malheur à la ville sanguinaire. Malheur, bon, ben, c'est le contraire de Babylone. Malheur, on a ça dans Apocalypse 18 aussi, au moment de la chute de Babylone. Le malheur, c'est pas... comment dire? C'est pas... c'est un état. Dans les Béatitudes, on a bienheureux ce qui, mais malheur à ce qui. C'est le Seigneur qui dit, finalement, tu as fait ton malheur toi-même. Ce n'est pas moi qui t'inflige ton malheur. Le mensonge, la rapine, le vol, la violence, tout cela t'a conduit au malheur. Donc c'est peut-être ironique, mais c'est aussi un constat très triste. Finalement, si tu vis de cette manière-là, forcément, tu seras toujours malheureux. Vous voyez cet immense champ de bataille. Pourquoi finalement? Est-ce qu'on était né pour ça? Donc on a la description, le galop des chevaux, j'ai l'impression d'être, moi je sais pas, à Waterloo, hein, quand on entend les
chevaux. Vue sur des cadavres, oui, la vision est assez triste.
Complètement apocalyptique, mais alors l'apocalypse dans la Bible, ça veut dire que c'est le retour au chaos, ou bien peut-être ce serait le départ d'une nouvelle création, espérons. On pourrait dire aussi que le Christ sur la croix, et on a eu aussi une certaine lecture apocalyptique, dans le sens où au moment où le Seigneur expire, vous savez, dans les enluminures, on voit que le soleil et la lune qui étaient à droite et à gauche de la croix se voilent la face. La création ne peut pas voir mourir son créateur, c'est le chaos originel. Donc pour moi c'est un petit peu ça. La manière dont Ninive a grandi, écrasé, arrive forcément à cette situation d'écrasement. Mais c'est la mort, mais bon, c'est une lamentation ironique. Mais en fait, le Seigneur, en définitive, c'est le maître de l'histoire, c'est lui le vainqueur.
Mais vous nous disiez justement que la violence, c'est d'une certaine manière le germe de ce qui a contribué à la chute de Ninive. C'est ce qu'on retrouve d'ailleurs au verset 7. Ninive est dévastée. Qui la plaindra? Ça, c'est la question de la responsabilité aussi que vous posez.
Et ça, c'est justement, qui va pouvoir plaindre Ninive? Mais personne. Ninive sera inconsolée et inconsolable parce que qui voulez-vous qui défende ce comportement? Nahum le consolait, il dit, moi je dis à Judas, voilà, enfin juste retour des choses, le joug qui pesait sur nous, nous est enlevé. Mais je ne voudrais pas qu'on se dise, je me réjouis de l'écrasement de Ninive. Parce qu'en fait, on ne peut jamais se réjouir du mal. Il faut attaquer le mal par le bien.
Pourtant, c'est l'impression que ça pourrait donner ce texte, parce que il y est quand même grandement détaillé le déshonneur dans lequel se trouve Ninive, les humiliations qu'elle subit, la destruction, les massacres qui ont lieu à tous les carrefours, c'est écrit noir sur blanc. On pourrait croire que c'est une forme de réjouissance, ça n'en est pas une.
En fait, lorsqu'un empire est vaincu, on sait que ça se passait comme ça, on faisait venir tous les enfants et on les écrasait en les jetant du haut des remparts. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter que la génération suivante se venge. Donc on tuait toute la génération. Et puis, devant les parents, on violait les femmes, etc. Et s'il y avait encore des gens debout, on les déportait. C'était affreux, on sait que... On perçait la lèvre, on passait une corde et la corde était portée par un soldat. Enfin, c'est juste monstrueux. On n'imagine plus aujourd'hui une telle violence.
Donc cette violence qui est dans le texte, elle est une violence qui a pu s'exercer.
Ah, tout à fait. C'est pas du tout inventé. Non, c'est ce qui a été vu. Et de même, après l'Empire romain, ça a été la même chose. Alors, on a ça dans Qumran. Qumran commente le livre de Nahum.
Alors Qumran, en deux mots, c'est des manuscrits qui ont été retrouvés au XXe siècle, vraiment voilà. Il n'y a pas très longtemps, dans des grottes.
1947, dans des grottes, voilà.
Pas très loin de Jérusalem.
Du côté de la mer Morte. Et on voit bien qu'à Qumran, la secte qui était là, les Esséniens, prenaient Nahum et appliquaient lui c'est un tel, lui c'est un tel. Donc par exemple, la chute de Ninive, c'est en fait la conquête de Rome qui a été terriblement violente aussi. Et puis Manassé qui s'est soumis à Rome. Mais justement, c'est tellement plus simple de dire « Ah ben lui, c'est un tel ». Pour moi, l'enjeu, ça va être de dire « Ce mal-là, il existe encore aujourd'hui. Je ne peux pas dire « C'est un tel ». Je peux dire « C'est ce que nous sommes habités par ce grand désir de devenir enfant de Dieu et par ces suspicions, ces connexions, ces compromissions avec le mal. Rien n'est simple. Donc, on a toute la description. On a, Ninive, tu te croyais forte, hein, tu te croyais plus forte que Thèbes. On a la description au verset 8. Thèbes, c'était une ville majestueuse.
Et parce que Thèbes a aussi été écrasée, finalement.
Écrasée en 667. Et alors, Thèbes était au bord du Nil, extrêmement protégée. C'était en plus la ville du dieu Amon, donc le dieu égyptien avec une tête de bélier. Comment imaginer que Thèbes aurait pu être écrasée? Eh bien, ça arrive. Ninive, ça arrive. Jérusalem, ça arrive. Babylone, ça arrive. En définitive, sans arrêt, on aura ces violences. Aujourd'hui, on les a dans des pays en guerre. Qu'est-ce qui va désamorcer ce processus ?
Un nouveau message, Madeleine Vatel.
Et alors, la question, c'est aussi comment est-ce qu'on sort de cette violence? Il y a comme une condamnation définitive au verset 19. À ta blessure, pas de remède, ta plaie est incurable. Car ta cruauté, sur qui n'a-t-elle pas passé et repassé? Est-ce qu'il est possible de lire ici qu'une personne est maudite définitivement par les actes qu'elle a engagés elle-même? C'est pas ce qu'on voudrait lire.
Là, on est dans l'Ancien Testament. Ta plaie est incurable. C'est vrai que c'est tragique. Tu ne te relèveras pas. Mais si toi, tu ne te relèves pas, heureusement, le Christ est venu nous annoncer que le Seigneur est bon, est lent à la colère, et il est bon, et sa miséricorde est infinie. Et on revient, en fait, le dernier verset nous renvoie au premier verset, ça c'est très souvent dans la Bible, une inclusion, et on relit la carte de visite du Seigneur qui est bon et qui est lent à la colère et qui est puissant et surtout puissant en amour. Donc en fait, même si ma plaie est incurable, je sais que Jésus-Christ est venu me dire que le plus grand péché qu'on a tant de mal à se pardonner, c'est ce que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Du côté du Seigneur, tout est toujours pardonné, il suffit de se retourner vers lui. Donc ça, c'est la grande nouvelle du Nouveau Testament. Rien n'est incurable, rien n'est perdu. Le père de l'enfant prodigue l'attend toujours, quoi qu'il arrive. Quelle espérance, quel message pour aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver cette miséricorde, en tout cas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver ce pardon, justement, que plus personne d'autre ne nous accorde dans certaines circonstances?
Voilà, je crois que c'est ça qui est très difficile. Nous-mêmes, nous avons du mal à y croire, parce que nous savons bien ce que nous avons fait. Mais être désarmé, ouvrir les mains, accueillir. En fait, spontanément, nous avons tellement envie de prendre. Or, le Seigneur nous dit, mais ouvre les mains et ouvre ta bouche, et moi je l'emplirai, dit le psalmiste. Donc, en fait, le Seigneur attend que nous soyons des enfants qui ayons soif, assoiffés de son amour, assoiffés de sa tendresse. C'est la seule chose que nous avons à faire, nous laisser faire.
Le verset 17, je remonte un petit peu parce que c'est aussi une question qui se pose ici, c'est la question des gardes. Alors qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Donc les gardes du roi, tes gardes sont comme des sauterelles, viennent le soleil, ils s'envolent et nul ne sait où ils se trouvent. Mais où sont-ils ? Se demande Nahum. Les gardes du roi, est-ce que c'est... là aussi, là, ça pose la question de la fidélité, y compris à un roi terrible. Comment vous l'interprétez cette phrase, ce verset ?
C'est de la dispersion totale, c'est vrai. Le roi d'Assour pensait que son armée était solide, et puis ses gardes s'évanouissent comme la rosée au matin. Eh bien, je crois qu'on ne peut pas garder les gens uniquement par la violence. Il n'y a plus de rassembleurs, il n'y a pas de veilleurs. En face, on a l'Ancien Testament avec Israël, cette phrase « veilleur où on est la nuit ». Il faut toujours veiller parce qu'en fait, rien n'est jamais perdu dans l'espérance d'Israël. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas garder les gens uniquement par la violence. Il me semble que c'est ça. Enfin, tes gardes sont comme des sauterelles, la situation s'est renversée.
Oui.
Donc, ils vont pas rester au service d'un roi écrabouillé. Hein.
Donc, tout le monde est libéré, finalement.
Finalement, tout le monde est libéré. C'est ça qui est extraordinaire. Ouais. Et donc, c'est un grand, grand message de libération. Et au début, on disait que c'était un message de violence. Non, pour moi, c'est une immense espérance qui est universelle.
Et puis, alors... Ça vous a fait penser à Jonas. Alors c'est vrai qu'il y a Ninive. Ninive, on en a entendu parler à un autre moment dans la Bible. Avec Jonas, justement, c'est pas du tout la même Ninive. On a le sentiment de découvrir deux moments et deux lieux différents et deux prophètes tout à fait différents.
Ah, Jonas, c'est très très drôle parce que là, on avait Nahum qui prie, en fait, et puis après, il décrit ce qu'il voit. Jonas, lui, c'est différent. Il était bien tranquille, là, et puis le Seigneur lui dit, bon, écoute, je suis en souci, là, Ninive, il faut qu'ils se convertissent. Alors, tu vas aller prêcher, là, tu vas aller les appeler à la conversion. Alors, Jonas, il connaît le Seigneur. Comme Nahum, hein, il connaît sa carte de visite. Donc, il dit, non, ça ne marche pas. Hein. Il fait du stop, du bateau stop, et il prend un bateau exactement dans l'autre sens. Et non seulement dans l'autre sens, mais en plus, il va dans la cale, et il sort son matelas, il se couche, en disant, moi, là où je suis, le Seigneur ne va pas me repêcher. Hein. Mais pas du tout, parce qu'il y a une tempête. Et alors, du coup, les marins ne comprennent pas pourquoi ce passager est allé s'enfermer dans la cave. Ils viennent le chercher en disant, dis donc, allez, tout le monde est en train de prier son Dieu, toi, tu vas prier le tien pour que cette tempête s'arrête. Et Jonas dit tranquillement, c'est à cause de moi, n'avez qu'à me mettre à l'eau. Alors les matelots, ils sont pas si mauvais que ça, ils disent, tu mets à l'eau, et... on va tirer au sort, le sort tomba sur Jonas, effectivement c'est à cause de toi, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fui la présence du Seigneur, non, mettez-moi à l'eau, ça va s'arranger. Et effectivement, une fois qu'il est à l'eau, le calme revient, et le Seigneur dépêche une baleine, une grosse bête, un monstre, qui avale Jonas. Elle a une grande gueule, puisqu'elle... ne blesse pas du tout Jonas, qui s'installe dans l'estomac de la baleine en disant, bon, maintenant, là, le Seigneur va me fiche la paix, il viendra pas me chercher. Et puis, il prie. Et puis, il a aussi son beau psaume en disant, finalement, le Dieu d'Israël, c'est quand même un Dieu extraordinaire. Et quand il est mûr, le Seigneur surveille ça du haut de son ciel, bien sûr, hein, quand il est mûr, c'est une parabole. Il dit, ça y est, il est mûr, il ordonne à la baleine de cracher Jonas sur la terre. Et Jonas, donc, sortant de la baleine, il se dit, bon, allez, je vais faire ce que le Seigneur m'a demandé. Il part à Ninive. C'est une ville extraordinaire, grande. On nous dit qu'il fallait 3 jours pour la traverser, vous rendez compte. Et alors, il commence. Et il commence à clamer le message qu'il devait faire, c'est-à-dire, encore 3 jours, et Ninive sera dévastée. Et dès qu'il ouvre la bouche, hop, les gens de Ninive disent, ouh là là, ils se convertissent immédiatement. On nous dit qu'ils se mettent sous le sac et la cendre, ils déchirent le vêtement, et même les animaux d'ailleurs, même les chameaux font pénitence. Donc c'est extraordinaire. Et alors du coup, ça ne plaît pas du tout à Jonas. Parce que Jonas, il avait été envoyé pour dire, Ninive, tu vas être détruite. Et puis c'est toujours pareil, le Seigneur ne fait jamais ce qu'il demande. Il ne fait jamais ce qu'il dit. Il ne va pas les détruire. Non, c'est pas possible parce qu'ils se convertissent. Alors il dit non, je me suis encore fait avoir. Il n'est pas content. Seigneur, tu m'envoies pour dire que Ninive sera détruite. et tu vas pas le faire. Vraiment, j'en ai assez. Donc, il sort de la ville, il va dans un lieu intéressant, sur une montagne, pour bien voir ce qui se passe, et il observe. C'est qu'il y a le soleil qui tape. Hein. Il est... Alors, du coup, le Seigneur est gentil, il va ordonner à une plante de pousser, un ricin, une courge, et ça va lui donner un joli petit parasol. Ah, il dit au Seigneur, « Ah, merci Seigneur, c'est gentil, tu penses à ton prophète, hein, j'ai une belle ombrelle. » Donc c'est à ce moment-là, il est content avec le Seigneur. Mais quand même, il regarde et il voit que à Ninive, tout le monde se convertit. Et alors du coup, il n'est pas content parce que finalement, ce qu'il a dit, ça ne va pas se réaliser. Je me suis fait avoir. Et puis le Seigneur, pendant ce temps-là, au bout d'un moment, il envoie un petit ver qui va attaquer le ricin. Et alors le ricin, hop, le parasol meurt. Flûte alors. Alors à nouveau, c'est le soleil qui tape sur la tête du Jonas, qui a vraiment la tête un peu dure et qui râle et qui dit, mais enfin Seigneur, tu m'avais donné un parasol et voilà que j'ai plus de parasol. Enfin, c'est quoi ce travail? Ah, t'es pas content? Non, je suis pas content du tout. Mais pourquoi? Il t'avait coûté quoi ce ricin? Enfin, tu as fait un travail, tu l'as planté, tu l'as arrosé, tu l'as... Ah ben non, mais il était là, puis maintenant il n'est plus là. Ah d'accord. Donc toi, pour le ricin, tu n'es pas content. Mais pour tous ces milliers de Ninivites qui ont failli être détruits, ah, tu t'en fiches? Non, mais tu me prends pour qui? Est-ce que moi, je suis un Dieu lent à la colère, qui est riche en grâce, en miséricorde? Ou est-ce que je suis celui qui veut écrabouiller tous les gens qui ne marchent pas comme je veux? Quelle vision du Seigneur, quel visage, quelle perspective as-tu? Quel Dieu as-tu, Jonas? En fait, c'est une question qui nous est posée à nous.
C'est la question d'ailleurs qu'on évoquait la semaine dernière dans le chapitre 1. Quelle idée vous faites-vous du Seigneur?
Et voilà. Et donc le Seigneur est tellement content que Ninive se soit convertie chez Jonas. Et Jonas est tellement furieux, c'est une parabole. C'est vraiment à faire avec tes enfants et on voit bien comment les enfants, bah oui, c'est toujours pareil, tu fais jamais ce que tu dis. Eh bien, peut-être que le Seigneur attend de nous tous que nous changions de cap et il serait tellement content qu'on se réjouisse que les autres et que moi aussi, que tout le monde, on change de cap et qu'on marche ensemble vers un Dieu miséricordieux. Que ce soit celui des musulmans, celui des juifs, celui des chrétiens. De toutes les façons, c'est le même Dieu plein de miséricorde pour toute la famille humaine.
C'est ça que vous appelez la conversion?
Oui, mais on en a pour la vie. Hein.
Merci beaucoup, sœur Christine Conrad. Je rappelle que vous êtes bénédictine ici à l'abbaye de Jouarre, où nous nous trouvons en région parisienne, plus précisément dans le département de Seine-et-Marne. Vous y êtes bibliothécaire et secrétaire de l'Alliance Intermonastère. Donc dans le monde entier, des monastères de bénédictins s'ouvrent. Merci beaucoup de nous avoir commenté ce livre qui s'appelle le Livre de Nahum. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un petit livre, c'est 3 chapitres, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire. C'est en tout cas une sacrée épopée et qui nous conduira à davantage nous tourner vers Dieu. Merci beaucoup. Bonne semaine. Les racines du présent, c'est avec Frédéric Mounier et c'est dans un instant.
Boualem Sansal, une grande figure de la vie intellectuelle, est aujourd'hui retenue par les autorités algériennes. Une incertitude réelle plane sur son sort. Il y a quelques semaines, il avait été l'invité des Racines du Présent, en compagnie de Jean-Claude Raspien-Jas, chroniqueur au Masque et la Plume de France Inter. Nous vous proposons de réécouter cette grande voix, aujourd'hui bâillonnée.
Depuis plusieurs jours, nous sollicitons votre générosité. Pour tous ceux qui ont répondu présent, toutes les équipes RCF vous disent merci. Et si vous souhaitez nous soutenir, il n'est jamais trop tard. Faites un chèque à RCF Solidarité, 69 321 Lyon, CEDEX 05. Radio Don RCF, votre soutien est essentiel. Je pense, donc j'agis. Melchior Gormand.
De la construction à la Renaissance de Notre-Dame de Paris, qu'est-ce qui fait la grandeur de la cathédrale? De quoi est-elle le symbole? On en parle ce lundi dans Je pense donc j'agis avec Pauline de Torsiac. Rendez-vous dès 10h à quelques jours de sa réouverture.
Vous écoutez RCF à Bordeaux sur le 88.9 et où vous le souhaitez avec l'application RCF.
Racines du présent, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Bonjour à tous, bienvenue dans notre studio pour cette nouvelle édition des Racines du présent, comme chaque semaine en partenariat avec le quotidien La Croix. Et au micro, comme chaque semaine, Frédéric Mounier. De quoi notre langue française est-elle le nom ? D'où vient-elle ? Quelles sont ses racines ? De quels idéaux est-elle porteuse ? Notre langue est-elle en péril ? Et ce qu'elle porte aujourd'hui, est-il aujourd'hui un chef-d'œuvre en péril? Avec notre invité aujourd'hui, nous allons converser sur cette question. Boualem Sansal, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écrivain, algérien, français, on en saura plus tout à l'heure. En tout cas, vous êtes ancien haut fonctionnaire de votre pays d'origine, l'Algérie. Vous avez publié de nombreux livres et le dernier aux éditions du CERF s'intitule « Le français, parlons-en ». Nous allons en parler avec Jean-Claude Raspienjas également, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous, vous avez dirigé longtemps le service culturel du quotidien La Croix et vous avez été aussi pendant de très nombreuses années chroniqueur au Masque et la Plume sur France Inter. Voilà notre sujet aujourd'hui, histoire du français, histoire de France, histoire universelle, point d'interrogation.
Les racines du présent, Frédéric Mounier.
Alors, Boualem Sansal, vous nous faites l'amitié d'accepter notre invitation. Le titre de votre livre, Le français, parlons-en au CERF. Je ne vous cache pas que votre livre m'a semblé écrit à l'emporte-pièce comme une cavalcade furibarde. Et vous professez une défense et illustration de la langue française. Ce livre se lit d'une traite, mais il faut bien le dire, il nous laisse comme essoufflés. Alors, on va savoir pourquoi et comment. Tout d'abord, est-ce que vous pourriez vous définir, Boualem Sansal? Êtes-vous algérien, français, algéro-français, franco-algérien, ou êtes-vous universel, Boualem Sansal?
Moi, j'aime pas les appellations avec un trait d'union entre les deux. Je suis algérien en Algérie, et je suis français en France. Maintenant que j'ai la nationalité française, je me revendique comme français. Je sors d'un bain, je rentre dans un autre, je le prends en entier. Et voilà. C'est très difficile d'avoir deux montures, d'être sur deux chaises.
Mais oui, on imagine.
Et en particulier quand on est sur deux pôles totalement différents. Moi, je n'adhère plus à ce qui se passe en Algérie, enfin, à ce qu'est devenu l'Algérie.
Mmh. Alors, vous allez nous en dire plus, voilà, évidemment. Avant de passer la parole à Jean-Claude Raspienjas pour une première question, une autre précision de votre part. Vous définissez-vous comme étant agnostique, athée? Êtes-vous musulman réformateur? Êtes-vous simplement spirituel? Comment vous définissez-vous, Boualem Sansal?
J'ai toujours été depuis très longtemps, depuis presque mon enfance, très, très attiré par les religions. J'ai vécu dans un quartier à Alger, Belcourt, et j'avais comme voisin direct Camus,
Albert Camus, voilà,
dont la maman et la mienne étaient de grandes amies. Donc j'ai vécu dans un milieu où juifs, chrétiens et musulmans vivaient ensemble sans se différencier. On mangeait la même cuisine, on vivait ensemble. C'est vraiment ce qu'on appelait la soupe. Mmh. Voilà. Et malheureusement, la guerre est arrivée, elle a séparé. Et il fallait peut-être se définir. Une fois que l'Algérie est devenue indépendante, reflux du christianisme et du judaïsme, disparition totale du judaïsme. Mmh. Le christianisme continue encore à vivoter de manière sous haute surveillance. Il leur est d'ailleurs interdit de convertir, c'est, ouais, très dangereux aussi. Voilà. Et l'islam se pose comme, non pas seulement comme une religion, mais comme une doctrine totalitaire. Normalement, dans la religion, c'est quoi? C'est le doute et la conversation. On commence par ça. On doute, et puis on discute avec les gens pour essayer de trouver un chemin de vérité, un chemin de quelque chose. Là, non. Ça n'existe pas. Il faut avaler la potion. Cul-sec, pardon.
Alors,
pour l'expression.
On va approfondir avec vous toutes ces questions, et notamment, on va rentrer dans la conversation, et peut-être dans le doute, avec une question de Jean-Claude Raspienjas.
Oui, on vient de l'entendre, et on connaît vos livres, on connaît aussi vos déboires avec le gouvernement algérien, votre opposition très nette et très rapide à l'effacement du français en Algérie. Votre livre est un pamphlet vraiment rageur contre l'effacement du français, y compris en France. À quand remonte cette colère et cette rage en vous?
Depuis toujours. Moi, j'ai reçu, je pense, comme beaucoup de gens de mon âge, ou en France, ou en Algérie, ou au Maroc, ou au Congo, là, on a reçu une formation française excellente. Elle était vraiment excellente. On a fait l'école de la République. Et voilà, on a... Et pour nous, c'était... au moment de l'indépendance, le français était perçu comme par beaucoup d'Algériens. On appelait ça, Katebessine a appelé ça, qui est un grand écrivain algérien, le plus grand, comme un butin de guerre. Mm-hmm. Donc, pour nous, le français, à cette époque, en ce moment-là, c'était super important. On n'avait pas d'identité, on était français, indigène, on ne sait pas trop. On arrive, pays indépendant, il faut se construire. Quelle langue? Quelle est notre langue?
Donc, c'était une fondation.
Nous ne sommes pas des Arabes, donc nous sommes arabisés, des berbères arabisés. Mm-hmm. Et l'Algérie s'est très vite divisée en deux. Les francophones, on va dire, laïcs, modernistes, peut-être socialistes, progressistes, enfin, qui se situaient dans ce schéma-là, en gros, des Lumières. Et puis ceux qui étaient dans la démarche pan-arabisme, pan-islamiste, soviétique, un patchwork assez...
C'était vraiment deux camps.
Deux camps irréductibles.
Oui, irréductibles.
Irréductibles.
Et donc il y a eu une fracture.
Alors l'indépendance... Les francophones l'ont emporté parce que la trace, le bateau était lancé. Quoi.
Oui.
Donc on a continué sur, y compris les lois françaises. Pendant longtemps, on a gardé le code civil et la langue, évidemment, d'enseignement primaire, secondaire, supérieur et tout ça. Donc, et les francophones ont pris le pouvoir. C'est eux qui tenaient la haute administration. Ouais. Et puis il y a eu la bascule parce que, à un moment donné, l'Algérie a été, je dirais, presque vertement condamnée par les autorités musulmanes, qui disent, enfin, vous êtes battus pour votre indépendance, et vous parlez encore français, et vous avez encore des églises chez vous, il faut rentrer dans le rang. Et c'est comme ça que l'Arabie saoudite, et puis alors l'Égypte, c'était plutôt le pan-arabisme, hein, revenait à la race arabe, c'était très, très racial, c'était basé sur le ralliement, c'était la race. Et les islamistes, le pan-islamisme, c'est l'islam. Et donc, et petit à petit, ils ont forcé le gouvernement à céder. La première décision, c'était, ils ont demandé au gouvernement algérien de séparer hommes et femmes. C'est-à-dire, la mixité a été interdite. On arrive à l'école, puis tiens, les filles partent d'un côté, les garçons de l'autre. Pourquoi? Eh bien, c'est comme ça, parce que l'islam, parce que... Mmh.
Après, ça, c'était à quelle époque?
Dans les années, après l'indépendance, jusque dans les années 70. Donc... petit à petit, la séparation, la mixité. Et puis ensuite, il y avait deux écoles, en fait. Une école entièrement en arabe et une école entièrement en français.
C'était deux mondes pour vous?
Oui. Absolument. Mmh. Très vite, on a découvert que c'était antinomique.
Oui.
Et votre rage, votre... Vraiment,
une rage.
Ça a été suscité par quoi exactement? C'est venu progressivement ou vraiment un jour c'était trop, quoi?
Non, je dirais progressivement, parce qu'au départ, on ne voyait pas venir les choses. Hein. On était jeunes, donc on n'avait pas cette capacité d'analyser les choses. On les voyait, on subissait. Hein. Les filles d'un côté, les garçons d'autre, ok. Ensuite, ça a été la façon de s'habiller, la façon de parler. C'était chaque jour un petit quelque chose. Enfin, c'est ce que nous observons en France.
On va en parler, oui.
Ils vont par petits bouts. Ils réclament pas tout, la charia, d'un coup. Ouais. Et puis à un moment donné, la goutte qui fait déborder le vase, c'est qu'à un moment donné, moi je me souviens, j'avais une copine française, parce qu'il y avait encore des Français, et puis c'est devenu interdit. Mm-hmm. C'était,
Et là, vous avez choisi votre camp. Alors, Boualem Sansal, vous avez vraiment décidé de faire de la défense de la langue française votre cheval de bataille. Et je voudrais vous citer, vous écrivez, « Il n'y a de peuple que dans une culture et une langue, de culture et de langue que dans la liberté, de liberté que dans le courage et l'honneur, de courage et d'honneur que dans l'amour de son pays et des siens. La nature de la chaîne signe la mort du peuple et la dislocation du pays.
Ah » ouais.
Quel diagnostic faites-vous de la situation de la langue française en France aujourd'hui, Boualem Sansal ?
Ben, on est quelque part entre tout va bien et tout va mal. Bon,
merci donc, ça, de nous ça, apporter quelques précisions.
Dans certaines régions, je suis super content. Quand je vais, je ne sais pas, il y a encore... la France est un pays de province. Chaque province a sa particularité.
Au pluriel, oui, c'est ça.
Ouais, 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 mm-hmm. Ouais. Dans certaines provinces, alors, on dit, ah, voilà, un lieu de cohérence, les gens sont ce qu'ils sont. Ils sont vrais. C'est beau à voir. Ils vivent leur tradition locale, mais aussi nationale. Ils sont ouverts, ils sont intelligents. L'économie se porte bien. La vie sociale est encore agréable. Les gens s'expriment correctement. C'est formidable. Et puis, on voyage dans la province d'à côté. On dit, attends, est-ce qu'on a changé de pays ou, voilà, c'est un peu cela, quoi.
Donc beaucoup s'interrogent, est-ce que la France est un archipel ou est-ce qu'elle est une mosaïque aujourd'hui ? Vous en dites quoi, Boualem
Sansal ? Ah, moi je pense qu'un archipel, hein, parce que, oui, absolument, on est dans un phénomène d'éclatement, de séparation, mais la séparation n'est pas que... regardez par exemple, je sais pas, entre les gens de droite et de gauche, mm-hmm. Ben, ils ont toujours travaillé ensemble. Ils avaient le même souci pour le même pays, pour la même idée.
Ce qu'on appelait autrefois le bien commun. C'est
le bien commun. Mm-hmm. Il n'y a plus de commun.
Ça se délite.
C'est ou l'un ou l'autre.
Oui.
Aller discuter de bien commun avec Mélenchon, c'est pas possible.
Mm-hmm. Et pourtant, nous parlons tous la même langue, pour revenir à la question de la langue, Boualem Sansal.
La langue, c'est un merveilleux instrument de musique. On peut l'utiliser pour n'importe quelle musique.
Hein. Pour faire de la musique militaire, ou pour faire une berceuse.
Comme on veut.
Oui.
Et encore que la langue française est quand même nourrie par des valeurs anciennes, qui ont cristallisé.
Ça vous paraît important, ça ?
Oui, oui.
Les valeurs que porte la langue française.
Absolument.
Vous les décrivez comment, ces valeurs ?
Déjà, la liberté.
Oui.
C'est les valeurs de la lumière, c'est la liberté, c'est le vivre ensemble, avec le sens de... les mêmes définitions sur ce qu'est le beau, ce qu'est le vrai, ce qu'est la société.
C'est une communauté de pensée. Et c'est cette communauté-là qui est mise en péril en ce moment.
La fracturation. Déjà, Chirac l'avait noté. En parlant de la fracture sociale, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je veux dire que ça ne fait que s'aggraver.
Jean-Claude Raspienjas.
Vous allez beaucoup plus loin dans votre livre, puisque vous avez l'air de dire, et vous écrivez, qu'au fond, cette dislocation de la langue française, son éclatement, enfin son appauvrissement et tout ça, a l'air de reposer sur un fond de guerre civile larvée. Je me trompe
forcément, à partir du moment où on commence à diverger sur les fondamentaux, la guerre n'est qu'une suite naturelle. Elle se fera avec les armes ou par diverses manières, mais on y est déjà, hein.
À quoi voyez-vous les signes de cette dislocation et quelles en sont les prémices
La fracture sociale, le sens du bien commun qui tournait autour d'une moyenne. Aujourd'hui, ils sont tellement... C'est quoi le bien commun quand on vit, je ne sais pas, dans certaines régions de France, disons à Paris dans le 16e, et ceux qui sont dans le 9-3, qu'est-ce qui est commun là ? Donc ils s'ignorent totalement, et donc forcément, à un moment donné, les tensions vont être tellement fortes que et les uns et les autres vont prendre des décisions radicales. De ce côté-là, ça a été la communautarisation, on se protège contre trucs, puis ça est le séparatisme, et puis l'enfermement, c'est un ghetto. Ça tourne au ghetto. Et puis, et de l'autre côté, ça devient une sorte de verrue. On ne sait pas comment regarder ça. Donc, quand on est animaliste, on dit, quand on joue là-dessus, hein, Il faut faire quelque chose, il faut les rattraper, c'est quand même nos frères, nos compatriotes. Ou d'autres disent, non, il faut carrément rompre, c'est pas possible.
Mais ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que au-delà des fractures sociales, économiques ou ces ghettos, ce que vous dites, c'est la langue qui témoigne de ça. Et de quelle façon, précisément, cette dislocation, la langue en témoigne, en souffre et en témoigne.
Boilem Sansal.
Eh bien déjà, c'est tout simplement au niveau du vocabulaire, hein, donc les mots n'ont plus le même sens.
Nous ne parlons plus la même langue.
On parle la même langue, mais les contenus sont différents. Mmh. Que veut dire liberté? La liberté, en France, c'est clair, on peut faire des tas de discours là-dessus, on sait ce que c'est, quoi. C'est déjà la liberté de conscience, la liberté de parler, la liberté sexuelle, etc., etc. On peut habiller ça de différentes manières et trouver des moyens. Bon, on n'est peut-être pas tous d'accord sur la même définition de la liberté sexuelle, parce que si elle va dans toutes les directions, bon, c'est plus une dépravation qu'une liberté. Mais enfin, on est à peu près... Mais dans l'univers musulman, la liberté, c'est une impiété colossale. L'individu n'existe pas. Existe le membre de la Oumma.
De la communauté,
et la communauté est sacrée. Mmh. C'est pas le peuple, c'est pas une opinion, c'est pas un groupe, c'est quelque chose de sacré. C'est le peuple élu, c'est voilà le seul promis au paradis. Et donc on utilise les mêmes mots parce qu'on peut pas faire autrement, mais ils n'ont pas du tout le mot citoyen, le mot liberté, le mot truc. Une femme, dans notre définition, mais dans notre définition, non, une femme est une... Elle est là pour servir l'homme. Tout alors, simplement, à la procréation.
On va revenir, Boilem Sansal, sur toutes ces questions, en particulier sur le rôle des religions dans la société française aujourd'hui. Avant cela, je voudrais vous proposer peut-être une bulle de détente, Boilem Sansal. Nous allons remonter à l'année 1975 avec une chanson que, je l'espère, vous trouverez en très bon français. C'était donc Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault, « Quand les hommes vivront d'amour ».
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous serons bons, mon frère.
Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous aurons eu la mauvaise partie.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, mais nous nous serons morts, mon frère.
Ici-bas, c'est le prix.
Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours, et nous serons mon frère.
Nous étions en 1975 avec Félix Leclerc, Robert Charlebois et Gilles Vigneault.
Et pas n'importe où. C'est-à-dire, on était sur les plaines d'Abraham, qui est un endroit sublime à Québec et qui est un champ de bataille, qui est l'endroit où les Français ont perdu contre les Anglais. Et donc, cette chanson, ce jour-là, Et à cet endroit-là, a eu une portée considérable, parce qu'elle a participé à la constitution de l'identité québécoise contre les anglophones. Et donc c'est une chanson, quand on l'entend au Québec, il y a tout de suite une résonance presque aussi forte que notre Marseillaise.
Les racines du présent. Une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Au micro, Frédéric Mounier. Aujourd'hui, notre invité, Boualem Sansal, écrivain français, écrivain algérien. Il nous a dit qu'il était des deux rêves, des deux rives ou des deux rêves de la Méditerranée. Le français, parlons-en, c'est le titre de son dernier livre aux éditions du Cerf. Nous sommes également en compagnie, vous venez de l'entendre, de Jean-Claude Raspienjas, journaliste, ancien chef du service culture du quotidien La Croix, ancien chroniqueur au Masque et la Plume de France Inter. Notre thème aujourd'hui, histoire du français, histoire de France, histoire universelle, point d'interrogation. Alors, Boualem Sansal, vous insistez évidemment dans votre livre sur la question religieuse. Vous vous définissez comme étant non religieux, et vous êtes très sévère vis-à-is des islams. Boualem Sansal.
Oui, religieux, si religieux renvoie à religion, donc disons que je ne le suis pas. Mais je crois aux idées qui sont derrière la religion.
C'est-à-dire ?
Eh bien, vous avez passé une chanson d'amour qui met en. C'est, moi, ça me plaît, ça. C'est l'idée que l'amour est un chemin de vérité. Voilà.
Ça, on peut encore le dire.
On peut encore le dire. Bon. Voilà, c'est formidable. Donc, je suis sur ce chemin. L'idée de. Je suis le chemin, la vérité et la vie, comme disait le Christ, ça me plaît bien, ça. Voilà. C'est à la fois simple et c'est complet. Mmh. Voilà, donc on cherche un chemin, mais on cherche un chemin pourquoi ? C'est pour la vérité, et parce que qu'est-ce qu'on au bout, c'est la vie. Je trouve ça formidable.
En vous écoutant, Boualem Sansal, on vous sent en quelque sorte miséricordieux vis-à-vis du christianisme, on vous sent intransigeant vis-à-vis de l'islam.
Oui, c'est vrai que je suis très sur le fond, je suis très chrétien. C'est vrai, je suis très imbibé par ces choses-là. C'est aussi une chose que j'ai beaucoup étudiée. Et donc, je suis pétri de ces valeurs-là. Mais je n'aime pas trop les religions dans la mesure où elles se comportent aussi comme une organisation sociale. Qui finalement s'est heurté à d'autres formes d'organisation sociale. Elles n'ont jamais. C'est ce qui a mené à la séparation. C'est que quelque part, ça n'allait pas.
En France, du moins.
En France, du moins. Ailleurs, ça s'est traité. C'est la même chose, mais ça s'est traité d'une autre manière. C'est parce qu'à un moment donné, l'ordre religieux, c'est un ordre. Et l'ordre, on va dire, civil, etc., sont entrés, en conflit.
Donc, à vos yeux, cette tension, elle est aujourd'hui réelle dans la plupart des pays arabo-musulmans.
Oui. Ah oui, mais plus que... la question est tranchée, déjà.
Tranchante.
Tranchée.
Oui.
Oui, absolument. Alors, ça, c'est depuis la naissance de l'islam, c'est un rejet...
C'est consubstantiel.
C'est consubstantiel. L'islam est venu justement pour mettre fin... aux errements juifs et chrétiens et autres, animistes, idolâtres, tout, c'est la vérité. La vérité arrive, elle est éternelle. Et dans un souci de cohérence, c'est ça que c'est extraordinaire. Et je trouve ça très intelligent de l'islam, parce que l'idée de dire l'islam commence aujourd'hui, du coup ça renvoie à la question, donc hier il n'était pas valable. Mm-hmm. Non, il dit non. L'islam existe depuis toujours. Abraham est un musulman. Moïse est un musulman. Jésus est le meilleur des musulmans. Donc, on a islamisé...
C'est un prophète parmi d'autres, oui.
Pas parmi d'autres. Le meilleur.
Mm-hmm. Mais alors, Boualem Sansal, lorsque vous voyez le pape François se rendre en Indonésie, le plus grand pays musulman du monde, et dialoguer avec le grand imam de l'immense mosquée de Jakarta, signer un document conjoint...
Oui, mais toutes les tentatives sont bonnes à prendre. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, évidemment. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est bon. C'est une façon de militer pour la paix. Donc, voilà. Donc, il faut aller les uns s'inviter. Hein.
Mais c'est une illusion, à vos yeux ?
Ça peut être regardé comme une illusion. Parce que c'est une démarche à sens unique.
Oui.
Voilà.
Il n'y a pas l'équivalent du côté des islams de la recherche de dialogue certains catholiques persistent à mener.
Voilà, absolument. Ça doit être réciproque. Si l'objectif c'est la paix, Donc ça va être réciproque. C'est donnant-donnant. Par exemple, il est permis aux musulmans de construire autant de mosquées qu'ils veulent, partout. Mais l'inverse n'est pas possible. Mmh. Les quelques chrétiens qui vivent encore en Algérie pratiquent leur culte dans des appartements, de manière la plus secrète possible. Et la police enquête, et si on pense que dans cette habitation, il y a des gens qui se réunissent tous les dimanches pour des machins, la police arrive, investit les lieux, et s'ils trouvent des bibles, des machins, c'est la prison. C'est...
Mais par ailleurs, à Abu Dhabi, au Sénégal, il y a des églises.
Ben voilà. Ben, oui, absolument.
Jean-Claude Raspienjas.
Oui, alors, moi, je voudrais revenir sur l'illustration musicale. Elle était évidemment pertinente, puisque cette chanson-là, d'abord dit que quand les hommes vivants d'amour seront troubadours, mais nous serons morts, mon frère. Et puis surtout, c'est le chant d'un peuple qui vraiment se bat pour préserver sa langue, la langue française, qui la préserve sûrement beaucoup mieux que nous. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous dites, au fond, c'est les francophones aujourd'hui. C'est les francophones de l'extérieur qui garantissent une certaine pérennité de la langue française qui a été abandonnée en France.
Voilà, absolument.
Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur ce constat, ce diagnostic?
C'était, on va dire, la France, la capitale de la langue française, c'est elle qui, pendant des siècles, a donné le sens. Elle a implanté, transplanté le français au Canada, en Afrique, dans beaucoup de pays arabes et tout ça. Et puis, c'était bien. Ça a bien fonctionné. Ça a permis des progrès extraordinaires. Scolarisation, parce qu'on n'avait pas d'école avant l'arrivée de la France en Algérie. Ça n'existait pas.
Il y avait des écoles coraniques.
Non. L'école coranique, c'est pour le Coran,
oui.
Tout simplement.
D'accord.
Donc, une école où on apprend des choses au-delà de la religion. Et donc, c'est la France qui a amené cela. Donc, c'était formidable. Et on a découvert tout l'intérêt, au-delà des aspects philosophiques. C'est un intérêt. Ça a permis de... Et puis, on se rend compte que la France n'a pas su accompagner... parce que les pays francophones, au départ, avaient besoin d'aide. On n'a pas les enseignants. Mmh. Comment maintenir... Il y a eu une bagarre entre l'Algérie et la France dès les années 65, quand Boumediene a pris le pouvoir. Il avait demandé de multiplier, de renforcer la coopération. On avait besoin d'ingénieurs, on avait besoin de médecins, on avait besoin d'enseignants, d'infirmières, de. Ça a été mis en place, mais il se trouve que le gouvernement algérien, à un moment donné, a pris une décision malheureuse, c'était la nationalisation des hydrocarbures. Et du coup, la France a arrêté la coopération. Et du jour au lendemain, on a régressé d'un siècle. Alors, on a remplacé au pied levé des professeurs, des chirurgiens. On a remplacé le chirurgien par un infirmier qui était là. Écoute, débrouille-toi.
Moi, je voudrais revenir à ma question. En quoi la francophonie peut-elle aider la France à cesser de perdre sa langue? Parce que vous dites... Votre livre est pétri de formules lapidaires fait passionnantes. J'en prends une, elle est à la page 40, donc on n'est déjà pas loin dans le livre. Vous dites, un peuple qui perd sa langue devient un étranger dans son pays, sombre dans la folie à force de se parler sans se comprendre, et s'éteint peu à peu. C'est vraiment la perception que vous avez aujourd'hui quand vous êtes en France?
Oui, absolument. Je ne suis pas le seul à... beaucoup de Français, l'ombre des cris sur la perte de substance du français, c'est un de plus, mon livre c'est un de plus.
Oui, mais alors, en même temps, Boualem Sansal, vous insistez, il y a de très nombreuses pages dans votre livre sur l'histoire de la langue française. Mm-hmm. Vous avez manifestement travaillé la question, d'où vient le français? Vient-il des Gaulois, des Romains, des Grecs, des Arabes? Vous avez cette très belle description des langues françaises. Je vous cite, une vaste et incessante symphonie, du gothique au rococo, en passant par toutes les nuances du baroque, qui sonnait, chuintait et pétaradait dans les oreilles, ça allait du picard au provençal, du basque au breton, du vendéen au morvandiau et au francique mosellan, du corse au catalan, du wallon à l'auvergnat, en passant par le françois royal de Paris, qui aidait à franchir la douane d'une région à l'autre. Nous venons de là, Boualem Sansal.
Ah, mais absolument, oui, ça a été une soupe extraordinaire.
C'était une grande diversité.
Enfin, pas si miraculeux. Il y avait des gens qui ont travaillé à cela. Les gens de la Pléiade, Joachim du Bellay, compagnie, ont commencé à un moment donné à se dire il faut construire quelque chose de commun, faisant quelque chose de commun. Ils ont commencé, et puis ils ont été suivis par d'autres, et puis Richelieu arrive, il a une vision. Richelieu avait besoin évidemment de la langue française et tout ça pour unir le peuple et tout ça, mais c'est aussi, il voulait en faire une langue impériale, ça, parce que on peut conquérir par les armes, bien sûr, mais on peut les conquérir, et ça a réussi. Le français était la langue de toutes les cours européennes. C'était, on n'imaginait pas s'exprimer autrement, hein, ou en Russie, à la cour de Norvège ou de Suède, où on n'imaginait pas. Et puis ça s'est répandu dans le monde entier, c'est devenu le français. Hein. Ben voilà, ça c'est. Ça a été porté par des rois, par des Richelieu, enfin des gens comme ça, par les encyclopédistes, par la Pléiade. Il y avait beaucoup de choses. Et même au XXe siècle, les courants littéraires qui ont joué à fond la langue. Pénétrer les âmes, parce que voilà, c'est pas tout de parler à quelqu'un et de communiquer, il faut aussi un échange au niveau supérieur.
C'était même la langue diplomatique, et même le Royaume-Uni, sa devise est en français.
Complètement.
On y soit, qui m'y pense, c'est ça ?
Voilà. Exactement. Et là, voilà. Qui s'occupe de ça ? Personne. Enfin, je crois que le dernier mandat, c'était un peu Jacques Lang, encore, qui a mis en place plein de dispositifs, le prix unique,